Auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle, les chroniques amnestiennes. Émission sur les droits humains dans le monde. Aujourd'hui, Zakhar et Jean-Michel animeront l'émission. Bonjour Zakhar.
Bonjour à tous.
Nous commencerons notre émission en faisant un rapide bilan de l'opération annuelle 10 jours pour signer que nous avons réalisée début décembre sur Albi, Carmaux et Gaillac. Dans le cadre de cette opération, nous vous passerons un reportage terrain extrait de l'émission que France Culture réalise en collaboration avec Amnesty International France au moment des 10 jours pour signer. Ce reportage concernera la situation dans le Rif marocain et le cas Nawal Ben Aïssa, militante des droits humains. Après une pause musicale, nous vous donnerons le point de vue d'Amnesty International sur le droit de manifester en France en regard de la situation actuelle et des violences qui accompagnent les manifestations. Nous vous informerons ensuite sur la nouvelle vague de répression homophobe qui a cours en Tchétchénie. La situation ne s'arrange pas au pays de Kadyrov. Nous ferons le point sur le système défaillant européen qui condamne les migrants en mer. Enfin, nous vous rappellerons l'importance qu'il y a à signer la pétition en cours USA, ni enfermement ni séparation pour les demandeurs d'asile. Chers auditeurs, nous allons donc parler rapidement de l'opération 10 jours pour signer que nous avons réalisée sur Albi Carmaux Gaillac. Bien, c'est une opération qui s'est donc déroulée le 8 décembre, 7 décembre, 6 décembre. Il y avait trois opérations un petit peu différentes. On était d'abord au cinéma de Gaillac avec présentation d'un film qui a attiré un certain nombre de personnes, qui a permis de faire signer, de communiquer. On était aussi à Carmaux. La médiathèque, n'est-ce pas, Zakhar?
La médiathèque de Carmaux nous a accueillis donc un samedi. C'est vrai qu'on a eu très peu de monde, mais les peu de gens qu'il y avait étaient très motivés pour les cas qu'on présentait.
On a eu moins de monde que l'an dernier à la médiathèque de Carmaux, je pense parce qu'il y avait des problèmes de blocage de
route.
C'était en plein gilet jaune, j'allais dire. Et voilà. Donc on attribue la performance en demi-teinte de Carmaux à cette situation. Voilà. Et à Albi, par contre, bon, on était comme d'habitude à la médiathèque sur deux jours et on était très contents parce que je dirais qu'on a fait un nombre de signatures qui est le meilleur qu'on ait fait depuis que l'opération existe sur Albi. Donc on a recueilli environ 2200 signatures, c'est-à-dire qu'il y a environ 300 personnes qui sont intéressées à nos pétitions, parce que tout le monde ne signe pas toutes les pétitions. Puis il y a également ceux qui sont convaincus mais qui ont signé en ligne parce que bon bah ils n'ont pas le temps et puis ils préfèrent voir tous les cas défiler hein, plutôt que lire des textes. Bon, mais personnellement, j'étais pratiquement tout le vendredi. Les contacts m'ont paru excellents. Je veux dire, les gens sont à l'écoute.
Tout à fait. Le peu de personnes qu'on a rencontrées notamment sur Carmaux, les gens sont dans la discussion au regard de ce qui se passe à l'international.
Voilà, on a toujours eu des gens à l'écoute, c'est-à-dire des gens qui réagissaient. On a eu très peu de réactions négatives. On a eu surtout des gens qui écoutaient, des jeunes aussi qui sont passés, alors qu'on n'a pas forcément fait signer s'ils avaient moins de 16 ans, mais petite communication sur qu'est-ce que c'est que les droits humains, comment tu vois ça. C'est quelque chose qui permet également d'avoir un dialogue et de commencer à intéresser les jeunes à la problématique des droits humains.
Tout à fait.
Voilà, donc on est assez content. On va vous donner on vous communiquera dans ces émissions la suite donnée, je dirais, aux 10 cas qu'on a présentés.
C'est ça.
On a choisi là, aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, mais comme tous les ans, on récupère une émission sur France Culture qui est réalisée en collaboration avec Amnesty International et qui prend donc des reportages terrain, carrément, donc dans les endroits que nous avons cités dans nos 10 pétitions. Et bien écoutez, on a choisi donc Nawal Ben Aïssa, la militante des droits humains au Maroc, qui au RIF a été mise en difficulté. Et ce reportage, on va vous le passer là. Donc il fait le point. Vous entendrez d'ailleurs Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International, qui va commenter ce cas. Mais l'intérêt, c'est de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc on a un petit quart d'heure là, je dirais, d'écoute, de manifestations, d'entretien avec les gens, d'interviews.
Vous avez choisi pour commencer de nous emmener au Maroc, dans la région du RIF.
Oui, alors le RIF, on se souvient du mouvement du RIF, le Hirak al-RIF. Hein, il a commencé comme un printemps arabe tunisien, avec des manifestations suite à la mort d'un vendeur de poissons. Son stock avait été saisi par la police. Alors c'était un poisson qu'il n'était pas censé avoir pêché, je ne sais pas, parce que la saison n'était probablement pas la plus propice. Et la police avait jeté toute sa pêche tout simplement dans une benne à ordures, un cabillon benne en fait, et c'est en essayant de récupérer son stock que le vendeur a été happé par cette broyeuse et qu'il en est mort. Les manifestations qui sont suivies, hein, notamment à Alocena, dans le Rif, ont défrayé la chronique pendant toute la fin de l'année 2016 et une bonne partie de l'année 2017. Et en fait, tout ce mouvement du Rif a commencé et s'est poursuivi comme ça. Et Sarah Doublier, notre correspondante donc au Maroc, nous raconte dans le reportage qu'elle nous a envoyé et ben cette mobilisation du Rif marocain et sa répression, la répression qui a suivi.
On écoute tout de suite ce reportage de Sarah Doublier.
Mi-novembre à la cour d'appel de Casablanca. Dans ce quartier industriel, boulevard des Forces Armées Royales, la circulation n'est jamais fluide. Pourtant, un calme étrange règne aux abords du tribunal. Ce jour-là s'ouvrait un chapitre important au feuilleton judiciaire du RIF, le procès en appel des plus importants leaders du mouvement Hirak, déclenché il y a plus de 2 ans dans cette région déshéritée d'Al-Oseima, dans le nord-est marocain. En première instance, des peines allant d'un à 20 ans de prison ferme ont été prononcées. Les plus lourdes, pour atteinte à la sûreté de l'État, concernent notamment Nasser Zefzafi, considéré comme le leader charismatique du mouvement. À l'annonce du verdict, le 10 juin dernier, la société civile se réunissait dans tout le pays, en protestation à Casablanca. L'avocate Saïda Rouissi manifestait.
Pour moi, c'est une régression. Les jugements étaient de la vengeance, parce que ces rifains, ils sont sortis pour des revendications légitimes. Ils sont innocents. Ils sont innocents.
Pendant près d'un an après la mort du poissonnier Mohsen Fikri en octobre 2016, Nasser Zefzafi mène la contestation dans le Rif. Des manifestations pacifiques pour protester contre les conditions socio-économiques de la région. On y réclame des hôpitaux, davantage d'infrastructures. Nous sommes au début du mois de juin 2017. Nasser Zefzafi est arrêté et transféré pour jugement à Casablanca avec une cinquantaine d'autres militants. Rifat, manifestant et instituteur à Al-Oseima, réclame dans la rue la libération des militants.
Oui, on va sortir tous les soirs jusqu'à la libération des détenus politiques qu'on a, Nasser Zefzafi et tous les membres du Hirak d'Al-Oseima. On va rester indéfiniment, on va rester toute notre vie jusqu'à la libération de nos détenus politiques. Parce que c'est un combat légal, c'est un combat social, c'est un combat qu'on va lutter toute notre vie.
Début juin, soir de Ramadan. Après la rupture du jeûne, chaque soir jusqu'à minuit environ, 5000 manifestants se réunissent dans le quartier de Sidi Abed. Dans la rue principale, on y installe des baffes et des micros. Après l'arrestation de Nasser Zefzafi, c'est Nawal Ben Aïssa qui prend la parole et harangue les manifestants. Son statut de maire au foyer n'a pas eu raison de son engagement, nous expliquait-elle alors.
Moi, je n'appartiens à aucune association. Mon engagement est une initiative personnelle. À tout moment, je sais que je peux être emprisonné. Mais la prison, ce sera un honneur pour moi, car je sors dans la rue pour revendiquer des droits universels. Après l'arrestation des activistes du mouvement, nous, les femmes, nous n'avions pas d'autre choix que sortir pour soutenir nos enfants, nos maris, nos pères, pour exiger leur libération immédiate. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Et nous devons montrer que nous ne céderons
إطلاق سراح جميع المعتقلين وتلبية الملف الحقوقي.
Dans ce mouvement, les femmes ont pris une place inattendue, partie prenante dans une société rifaine que l'on dit profondément conservatrice. Elles occupent les cortèges et sortent crier la libération de leurs détenus.
Chacune des femmes, elle a des enfants à la maison qui sont chômeurs.
La femme, maintenant, elle travaille ici, tout. Depuis 7 mois, on sort, tous. Même les vieilles, les femmes, les enfants, tous.
Zelmia, la paix, obsession des manifestants qui réfutent les accusations de casseurs aux idées séparatistes. Aux côtés de Nawal Ben Aïssa qui prend la parole, Silia Ziani, jeune chanteuse d'Al-Hoceima. Elle écrit des slogans militants. Au cours de l'été, on parle de féminisation du mouvement. Pourtant, en juin, Silia Ziani est arrêtée, puis transférée à son tour pour être jugée à Casablanca. Le symbole mobilise l'opinion. Lors de ses comparutions, les rassemblements appelant à sa libération se multiplient. Soraya Kahlaoui est coordinatrice du comité de soutien des détenus.
N'oublions pas que c'est une jeune artiste, elle a 23 ans. Elle est donc très jeune et bien évidemment elle ne s'attendait absolument pas ni à être emprisonnée et encore moins à être emprisonnée sous des charges d'inculpation extrêmement lourdes, atteinte à la sûreté de l'État, etc. Et c'est vrai que voilà, toute cette pression politique atteint l'état santé mentale de Silia, on le comprend bien et c'est la raison pour laquelle on est venu aujourd'hui demander sa libération immédiate.
Un mois plus tard, Silia Ziani est libérée sur grâce du roi Mohamed VI. Pendant un mois et depuis Rabat, Khadija Riadi, figure des droits de l'homme au Maroc, coordonne durant tout l'été une campagne internationale pour défendre ces femmes militantes poursuivies par les autorités.
Ce hirak a montré que cette stigmatisation des sociétés, des régions, n'est pas toujours vraie.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez il n'y a aujourd'hui plus de femmes en prison, des femmes du hirak, notamment les deux plus célèbres, Nawal et Silia, qui ont été poursuivies. Aujourd'hui, on a l'impression que Silia a été graciée par le roi. Est-ce qu'il y a une indulgence vis-à-vis des femmes?
Je crois que l'image d'un pays qui met des femmes en prison... C'est de moins en moins accepté. C'est vrai que ça existe toujours, mais il serait plus sévèrement jugé par l'opinion publique quand il met des personnes en prison. Surtout maintenant, il s'agit de personnes qui n'ont pas des appartenances politiques, qui n'ont pas une histoire d'opposition. C'est vraiment des gens, comme on dit, normaux, entre guillemets, et qui en ont marre, qui sont sortis de la rue parce qu'ils veulent que les choses changent. Donc mettre des femmes comme de ce genre en prison, ça paye. Politiquement, il est plus cher. En plus, les accusations données à ces personnes, collaboration avec l'étranger, de séparatistes, de recevoir de l'argent douteux, etc. Ça, ça colle pas avec les femmes. On le croit déjà pas avec les hommes qui sont actuellement en prison. Alors pour accuser encore des femmes de ce genre, ce serait encore plus ridicule.
On dirait une dizaine, quinzaine de jours, Nawal a été ce qu'on appelait la figure féminine du Hirak. Ouais. Peut-être que ça tombait au moment où il y a beaucoup de presse internationale à Al-Hoceima qui a vu cette femme haranguer les manifestants. Mais on a très vite vu qu'elle a été, on va dire, écartée parce qu'il y avait cette volonté de dire non, elle n'est pas la nouvelle Zefzafi. Et est-ce qu'il y a une forme aussi, le machisme peut-être, qui reprend le dessus dans ces situations-là où...
Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui a été diffusé, divulgué par les autorités aussi, pour la discréditer, pour ne pas trouver devant, pour que les autorités ne trouvent pas encore un autre Zefzafi. Et en plus, une femme, on peut dire les deux cas, c'est-à-dire soit la société qui n'a pas supporté une femme à la place de Zefzafi, soit aussi les autorités, c'est très probable.
Selon les défenseurs du mouvement, plus de 160 personnes sont encore en détention au Maroc pour leur participation aux manifestations du Hirak du Rif.
Nawal Ben Aïssa, l'une des voix du mouvement du Rif, un reportage de Sarah Doublier. Et ce matin, Eric Bigala, vous avez pu rencontrer Nawal Ben Aïssa de passage à Paris.
Ce n'est pas la première fois que le RIF se soulève et qu'il y a des protestations, même si les manifestations sont opprimées par l'État. Je résumerai la politique de l'État par ce trio, marginalisation, privation, oppression. Et donc je rappelle qu'en 1958-59, il y a eu des protestations, des manifestations, dans les années 80 également, puis en 2011, et aujourd'hui, donc en 2016, le Hirak. C'est la continuité, en fait, de nos demandes et de toutes ces protestations. Nous voulons nos droits. Nous voulons le droit à l'éducation, à la santé, au travail, car nous sommes privés de tout. Il n'y a rien dans notre région. Et je pense qu'à l'avenir, le mouvement va s'amplifier si la pression continue, car si vous mettez quelque chose sous pression, il finira par s'exploser. Et nous sommes soumis constamment à cette pression.
Kokrina.
Vous-même avez été arrêtée à plusieurs reprises, au moins 3 ou 4 fois. Vous avez donc été détenue.
Alors après les manifestations conduites par Zef Zafi et d'autres militants, j'ai senti que ces manifestations devaient continuer, on ne pouvait pas reculer. Et donc je participais à ces manifestations, j'enregistrais des vidéos que je publiais sur ma page Facebook pour appeler les gens à continuer ces manifestations pacifistes. Et donc j'ai été arrêtée une première fois par la police. Je suis restée 4 heures au commissariat. Une deuxième fois, j'avais publié sur mon blog un appel aussi à manifester. Et là, j'étais à la maison avec mes enfants et puis je vois une voiture de police. Donc la police m'arrête. J'ai dû laisser mes enfants tout seuls plusieurs heures, le plus jeune à 4 ans. Et puis, une troisième fois, j'ai été aussi arrêtée. J'ai subi une énorme pression psychologique. J'ai été interrogée, insultée, menacée de prison. Puis on m'a libérée. Et puis j'ai été arrêtée une quatrième fois. Je suis restée plus de 10 heures au commissariat. Et là aussi, on m'a insultée, on m'a menacée de prison. On m'a dit que j'allais être transférée à la prison de Casablanca et que je serais condamnée à la prison pour plusieurs années. Et puis finalement, j'ai été présentée au procureur général qui a décidé que je devais être surveillée. Donc jusqu'à la peine de 10 mois de prison avec sursis.
Vous avez été condamné, alors vous-même donc à de la prison avec sursis, d'autres à de la réclusion, donc de la prison ferme. C'est en première instance. Finalement, ils ont été condamnés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient commis quel crime ou ils étaient accusés de. Et vous étiez accusé de quoi ?
En ce qui me concerne, plusieurs accusations ont été imputées : incitation à manifester, offense à agents publics. Mais en fait, c'est le contraire. Moi, j'ai été frappée pendant que je manifestais pacifiquement avec ma fille de 8 ans. Nous avons été frappées toutes les deux. En ce qui concerne les autres, effectivement, c'est des peines extrêmement lourdes et des accusations très lourdes qui pèsent sur eux. Par exemple, atteinte à la sécurité du pays, on les a accusés d'être des indépendantistes. Mais ces accusations sont totalement fausses. Il n'y a pas plus honnête que ces gens-là. Ils veulent simplement le bien du pays, ils veulent le développement du pays et ils veulent des droits.
Où en êtes-vous de la mobilisation ? Il est terminé ? Ce mouvement du RIF, où il se poursuit.
Bon, comme vous savez, le mouvement Hirak est réprimé, les militants sont emprisonnés, on en est à plus d'un millier de prisonniers actuellement. Certains ont été tués, d'autres militants ont eu des peines de prison de 20 ans. Je crois que c'est un message au peuple marocain pour interdire les manifestations. Et je vous donne un exemple. Il suffit de porter un t-shirt avec l'image de Nasser Zefzafi pour être arrêté, harcelé par la police. Actuellement, beaucoup de jeunes sont partis. D'autres sont morts en tentant de quitter le Maroc. Donc, en gros, la moitié est en prison et la moitié est partie. Quant à moi, je ne participe pas à des manifestations, à des actions, puisque tout simplement, il n'y en a plus. Mais je suis toujours le mouvement. Et donc, comme vous le savez, une peine a été prononcée à mon encontre de 10 mois de prison avec sursis. Donc, j'ai une audience le 13 décembre prochain.
Deux représentantes d'Amnesty France sont nos invitées aujourd'hui, la présidente Cécile Caudriou et Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté. Alors vous avez vous-même rencontré Nawal Benaïssa. Quelle impression vous a-t-elle faite ? Qu'est-ce qui se dégage de cette femme, Cécile Caudriou ?
C'est une femme extrêmement impressionnante, car malgré la simplicité qui la caractérise, on sent aussi une force de détermination. Un certain calme aussi, c'est vraiment une détermination calme. Et on sent que les tentatives d'intimidation ont échoué, puisqu'elle n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et je trouve que tout son discours est tout à fait symptomatique, tout à fait emblématique plutôt de ce que nous cherchons à défendre à Amnesty International, c'est-à-dire l'idée que ce sont bien des droits universels. D'ailleurs, ça a été dit pendant ce reportage. Et on voit bien à quel point aussi ce sont vraiment les droits dans leur ensemble, puisqu'il y a au départ ces droits économiques, cette aspiration très universelle à la dignité, mais aussi l'impossibilité de s'exprimer dans la rue, de manifester. Et donc on voit bien que ce sont aussi des droits civils et politiques qui sont bafoués. Et donc ce que réclament ces personnes, ce sont bien sûr avant tout des droits fondamentaux qui eux-mêmes finissent par conduire à la dignité, quand ils sont tous respectés. Donc on ne peut qu'être admiratif devant son courage. Et on trouve évidemment que cette année en particulier, pour l'édition 2018, il est important de souligner le courage des femmes. Car les 10 personnes que nous mettons en lumière cette année sont toutes des femmes, et des femmes très impressionnantes.
Oui, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ce reportage terrain, réalisé donc par France Culture en collaboration avec Amnesty International. Je pense que ça vous donne une excellente idée de la situation dans le Rif marocain. Nawal Benaïssa, qui est la défenseur des droits humains que nous avions retenu dans le cadre de notre opération 10 jours pour signer, est interviewée longuement. Pour l'instant, cette pétition qui a été signée très bien à Albi, je dirais, lors de l'opération, et je pense très bien en France en particulier. Je vous rappelle simplement un petit peu le texte, mais pas tout le texte, mais je pense que ça résume bien ce que l'on a entendu. Nawal Benaïssa est une défenseure des droits humains de 37 ans, qui n'a fait qu'exercer son droit à la liberté d'expression et de réunion en faveur d'un changement pacifique et de plus de justice sociale dans la région du Rif, au nord du Maroc. Pourtant, depuis juin 2017, elle fait l'objet de manœuvres d'harcèlement de la part des forces de sécurité. Elle est surveillée, elle a été à plusieurs reprises arrêtée de façon arbitraire. Un tribunal d'Al Hoceima l'a condamnée à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, exclusivement en raison de son travail de campagne pacifique et légitime. Voilà. Bien. Donc, pour l'instant, si vous voulez, les pétitions ont été arrêtées, ont été rassemblées. Nous allons vous tenir au courant, dans le courant de l'année, de la suite donnée donc à nos pétitions qui défendent Nawal Benaïssa et la liberté de manifester pacifiquement dans le Rif. Donc, nous allons maintenant passer à la pause musicale. Aujourd'hui, c'est Mozart qui a été choisi, voilà, le divin Mozart. Chers auditeurs, vous avez certainement reconnu l'interprétation de Lang Lang, de la marche turque, une interprétation très particulière. Vous êtes toujours avec le groupe Amnesty International d'Albi, qui est son émission mensuelle, les chroniques amnestiennes sur les droits humains. Voilà, donc on va passer...
Alors la suite des événements, c'est que l'actualité brûlante aujourd'hui en France, on retourne au national un petit peu, eh bien c'est les violences policières, les interdictions de manifestation notamment. Donc il se passe des événements très importants aujourd'hui en France. Amnesty International a pu noter le caractère donc oppressif et difficile de ces événements. Jean-Michel, est-ce que tu pourrais nous donner des précisions sur la position d'Amnesty à ce propos ?
Voilà, donc Amnesty a publié très récemment, il y a quelques jours, un communiqué qui fait le point sur le droit de manifester en France. Je rappelle simplement déjà que le droit international dit que le droit de manifester ne devrait pas être soumis à autorisation préalable, car devoir demander une autorisation pour manifester ses opinions a un effet dissuasif trop fort et limite donc l'exercice de cette liberté fondamentale.
Alors du coup, est-ce que les manifestations sur la voie publique sont présumées légales ?
Oui, de par cette conclusion, tout à fait. Les manifestations sur la voie publique sont présumées légales. Alors, bien sûr, il est en revanche admis que les États prennent des lois qui encadrent le droit de manifester et demandent aux organisateurs de déclarer à l'avance les manifestations sur la voie publique. Alors, en France, la déclaration doit être faite en mairie ou la préfecture de police de Paris pour la capitale, dans un délai compris entre 15 jours et 48 C'est heures ça. Avant la manifestation. Les organisateurs doivent donc donner leur nom, adresse, l'objectif, la date, le lieu, le parcours. Alors, cette déclaration oblige les autorités à délivrer un récépissé, mais n'enclenche pas de mécanisme d'autorisation.
D'accord. Mais du coup, ça reviendrait donc à dire qu'une manifestation non déclarée serait illégale.
Alors, en droit international, elle ne devrait pas l'être. D'accord. Mais le droit français joue sur les mots. Mmh. D'accord. Une manifestation n'a certes pas besoin d'être autorisée pour être légale, mais sa déclaration est obligatoire. La loi française ne le dit pas telle qu'elle, mais une manifestation non déclarée devient en fait illégale, ce qui revient à faire de la déclaration préalable une sorte de mécanisme d'autorisation.
D'accord. Donc du coup, est-ce que les États auraient-ils le droit d'interdire des manifestations ?
Alors, les conventions internationales qui protègent la liberté d'opinion et la liberté d'expression posent des limites aux États. Pour être légitime, les restrictions au droit de manifester doivent être prévues par la loi et nécessaires pour protéger un intérêt public, comme la sécurité des biens et des personnes, manifestants compris, mais aussi l'exercice de certaines libertés par les autres citoyens. Enfin, les moyens employés pour restreindre le droit de manifester doivent être strictement proportionnés au but poursuivi.
Bon, on est au cœur du sujet là.
Voilà, effectivement. En France, le droit donne un pouvoir trop large aux autorités pour interdire des manifestations dès qu'elles estiment que celle-ci est de nature à troubler l'ordre public. Exactement.
Ça, on entend parler de l'ordre public très fréquemment en ce moment. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander si on peut filmer ou photographier une manifestation.
Alors, législation... tout à fait, la question doit se poser. Hein. Quand les États touchent à la libre circulation de l'information, ce n'est jamais un bon signe. La presse a donc un statut particulier. Mais toute personne est autorisée à documenter, photographier, filmer l'espace public.
D'accord.
Et les rassemblements et manifestations qui s'y déroulent, ainsi que les forces de l'ordre qui y opèrent, même quand elles font usage de la force. La diffusion d'images doit respecter des limites légales, bien sûr, ne pas violer le droit à la vie privée des personnes filmées, ne pas être diffamatoire et ne pas appeler à la violence ou à la haine. Mais la police et la gendarmerie n'ont pas le droit d'interdire des manifestants et des passants de filmer des scènes de violence ni de confisquer du matériel ou de demander de faire effacer des contenus de ces appareils.
Ah ben c'est effectivement bon de le rappeler, je pense, en ces temps. Mais on peut se demander dans quelle mesure l'utilisation de cette force est justifiée.
Alors l'utilisation de la force, effectivement, un point dur. Hein. L'usage de la force par la police ou la gendarmerie n'est légal que s'il est nécessaire et proportionné. Par exemple, donner des coups de matraque ou des coups de pistolet à des charges électriques à un manifestant violent est illégal s'il est possible de l'immobiliser par des moyens moins violents, par exemple en le ceinturant.
D'accord.
Battre une personne déjà immobilisée est donc en principe illégal. La violence de certains individus n'autorise pas les États à faire usage de la force publique contre tous les manifestants, car ce ne serait ni nécessaire ni proportionnel. Si l'usage de la force est nécessaire, en dernier recours, il doit se limiter au maximum aux personnes qui commettent les violences. S'il n'est pas possible de les cibler et que des personnes pacifiques risquent d'être touchées par accident, la police et la gendarmerie doivent, dans certains cas, renoncer à faire usage de certaines armes. Le droit français autorise malheureusement, je le souligne, les dépositaires de la force publique à faire usage de la force au-delà de ses cas précis, notamment pour disperser des attroupements quand deux sommations sont restées sans effet, et même si aucun individu dans l'attroupement ne commet de violence. Donc ça, c'est tout à fait illégal.
D'accord. Donc on commence à y voir un petit peu plus clair. C'est vrai qu'un public très nombreux a interpellé Amnesty International ces dernières semaines, hein, via les réseaux sociaux. Ces très nombreuses interrogations méritent un début de réponse.
Oui, les manifestations des Gilets jaunes en France depuis maintenant début décembre, enfin depuis novembre, ont généré effectivement un certain nombre de questions, en particulier vers Amnesty International. Et il faut donc donner un certain nombre de réponses ou un début de réponse. Depuis le début de ces manifs, Amnesty a recensé de nombreux blessés, mains arrachées, joues déchiquetées, yeux crevés, etc.
Tout à fait.
Les autorités françaises doivent condamner publiquement ces violences disproportionnées et diligenter des enquêtes rapides, indépendantes et impartiales à l'encontre de leurs auteurs. Alors, le 17 décembre, Amnesty avait déjà publié une première enquête sur le sujet. Bon, rappelons quand même que le travail d'enquête demande du temps et se doit d'être le plus rigoureux possible. Il n'est pas possible de réagir instantanément à toutes les informations publiées ou à celles qui remontent du terrain. Pour produire ces rapports, Amnesty doit recouper les sources, étudier les procédures, confronter les témoignages et les déclarations. Amnesty réagit parfois sur Twitter pour interpeller les autorités, le ministre de l'Intérieur par exemple, lorsque ces dernières tiennent des propos contraires au droit international. Voilà. Depuis
mai 2017, nous avons sorti une vidéo qui est très intéressante sur le droit de manifester en France et qui continuera à le faire dans les prochains mois.
Voilà, et j'engage nos auditeurs et ceux qu'ils connaissent à aller sur le site d'amnesty.fr où il y a une vidéo de 8 minutes, 30 secondes environ, qui reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, plus en détail, et qui montre les scènes, je dirais, des manifs de ces derniers mois. Voilà. Donc, allez sur le site d'amnesty.fr et vous aurez à loisir, vous visionnerez la vidéo et vous aurez encore plus d'informations et vous aurez plus d'éléments encore sur la position d'Amnesty International. Nous allons maintenant parler de la Tchétchénie, une nouvelle fois je dirais, puisque une nouvelle vague de répression homophobe s'est abattue sur la Tchétchénie. Les autorités tchétchènes ciblent une nouvelle fois les gays et lesbiennes présumés. Au moins deux personnes seraient déjà mortes des suites de tortures depuis décembre 2018, Zakhar.
Tout à fait, c'est une situation actuelle critique pour les personnes LGBTI. Donc on sait aujourd'hui que les autorités tchétchènes ciblent cette population-là. Le Russian LGBT Network a reçu le 28 décembre 2018 des informations faisant état des nouveaux enlèvements de personnes gays et lesbiennes en Tchétchénie. Et de leur placement en détention secrète à Argun, qui est donc une ville en Tchétchénie. D'après des sources confidentielles qu'on a eues récemment, les autorités auraient détruit les passeports de certaines victimes afin de les empêcher de quitter le pays. Donc il est désormais en mesure de confirmer ces informations et cette ONG qui a aidé des dizaines de personnes gays et lesbiennes à fuir la Tchétchénie au cours de ces deux dernières années, estime qu'environ 40 personnes se trouvent actuellement en détention.
Oui, c'est une reprise de la répression qu'on a malheureusement connue déjà en 2017.
Tout à fait. On a de nombreuses personnes LGBTI donc en Russie qui restent traumatisées par la purge de 2017 qu'on a connue il y a deux ans, au cours de laquelle des dizaines d'homosexuels en Tchétchénie avaient été enlevés, torturés, voire tués. La justice tchétchène n'a toujours pas été rendue pour les violences de 2017, ce qui montre quand même cette population-là LGBTI en Tchétchénie ne peuvent pas compter sur les autorités russes pour les protéger. En l'absence donc d'enquête officielle, les autorités tchétchènes se sont enhardies et ont lancé une nouvelle vague de persécution. Persécution donc à l'encontre de cette population, persuadée que le gouvernement russe les suivra bien sûr dans leurs dénégations et leurs discours équivoques. On a le 21 décembre dernier, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, a publié un rapport sur la répression de 2017 dans lequel est mentionné le refus de la Russie de coopérer ou de répondre aux demandes d'investigation à ce sujet. Donc jusqu'à présent, aucune enquête officielle digne de ce nom n'a été menée et personne n'a eu à rendre de compte pour les atrocités commises ni à ce jour ni avant.
Quand on connaît Kadyrov et ce qu'il fait en Tchétchénie, on n'est pas surpris. Il a la haine en particulier des homosexuels, etc.
Mais il faut dénoncer ces pratiques.
Mais il faut absolument le dénoncer et continuer à agir.
Agir sur amnesty.fr toujours. On va à présent parler d'un sujet brûlant et également donc en France, en Europe, nous allons parler de ces défaillances qui condamnent un système défaillant qui condamne les migrants en mer. Donc à propos des migrants, le système aujourd'hui qui est mis en place au sein de l'Union européenne, il dissuade les États de venir en aide aux réfugiés et aux migrants en péril en mer. Jean-Michel, est-ce que tu aurais quelques explications?
Oui. Le fait effectivement de sous-traiter le contrôle des frontières de l'Europe aux autorités libyennes et de maintenir un système inéquitable s'agissant de partager les responsabilités vis-à-vis des demandeurs d'asile entre les États de l'Union européenne est à l'origine de la situation à laquelle nous assistons. Des demandeurs d'asile et des migrants fréquemment condamnés à dériver en mer Méditerranée.
Donc ce sont des situations qui se reproduisent depuis des années.
Ben, malheureusement, et qui se sont accentuées, là, puisqu'on l'a vu avec l'éloignement des volontaires tels que l'Aquarius ou autres, la situation ne s'est pas arrangée. Le spectacle honteux de ces navires de sauvetage paralysés et de ces femmes, hommes et enfants bloqués en pleine mer pendant des semaines, tandis que les responsables politiques rivalisent d'insensibilité, refusant de les laisser débarquer ou avoir accès à une assistance, continue encore et encore de se reproduire. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un événement de ce type-là.
Tout à fait.
On a vu le blocage récent du bateau Proactive Open Arms, on a eu l'Aquarius, etc. Donc on a vu des gens rester 19-20 jours en mer, attendre l'autorisation de débarquer quelque part. C'est honteux.
L'objectif aujourd'hui de l'Union européenne, est-ce qu'on pourrait dire que ça serait de bloquer les personnes?
Tout à fait. Ce que cherche l'UE, c'est bien effectivement ça. L'absence de mécanisme au niveau européen, chargé d'aider les nouveaux arrivants, a de lourdes conséquences pour les pays de première entrée, à qui il revient d'examiner les demandes d'asile, d'accueillir les demandeurs, d'intégrer ceux qui sont reconnus comme ayant besoin d'une protection internationale et de renvoyer dans leur pays ceux qui se voient refuser cette protection. Alors, il faut le dire, les gouvernements européens ont mis en place une série de mesures visant à bloquer les traversées en Méditerranée centrale et ont notamment renforcé les capacités des gardes-côtes libyens d'interception des personnes en quête de sécurité et entravé le travail des ONG qui mènent des opérations de recherche et de secours. Oui. Alors bien sûr, quel est l'objectif de cette stratégie? Le but est de maintenir les migrants loin de l'Europe, alors même que la Libye n'est pas en mesure de coordonner les opérations de sauvetage et que le droit international interdit de débarquer des personnes secourues en mer dans un pays tel que la Libye, où elles risquent d'être soumises à des actes de torture, d'extorsion et à des viols. On en a été témoin, je crois.
C'est ça.
En vue de diminuer le nombre de personnes débarquées dans leurs ports, certains États de l'UE ont réduit ou abandonné les patrouilles effectuées par leur propre marine. Les ONG qui sont intervenues pour combler ce vide ont régulièrement essuyé des refus pour accoster dans les ports, notamment italiens et maltais. Certains gouvernements européens vont jusqu'à les empêcher de mener leurs activités de sauvetage au moyen d'enquêtes pénales infondées et d'obstacles bureaucratiques. Certains gouvernements paralysent les propositions visant à réformer les systèmes existants ou à pallier provisoirement ces lacunes. Cependant, peut-être que la période précédant les élections européennes, en mai, offre une fenêtre d'action.
On pourrait donc dire que les dirigeants européens ne doivent plus tourner le dos aux personnes bloquées en mer, ni fausser le débat sur l'immigration au profit de leurs seuls intérêts politiques.
Et ce n'est toujours pas le cas.
Exactement.
Pas terminer cette émission sans un petit rappel par rapport à une pétition qui est toujours en cours et qui nous tient à cœur, comme les autres, mais enfin, peut-être un peu plus encore. Il s'agit de la pétition sur les États-Unis qui demande de ne ni enfermer, ni séparer les familles dans le cas des demandeurs d'asile.
On rappelle qu'en ce moment même, c'est toujours le cas, à la frontière américaine avec le Mexique, donc des femmes et des hommes, ainsi que des enfants, sont enfermés dans des centres de détention. Hein. Ils sont tous demandeurs d'asile et ils attendent une décision en fait concernant leur demande d'asile. Cela peut prendre en fait des années. Et tout ce temps-là, ils sont enfermés. Hein. D'autres sont quelquefois sont renvoyés par la police des frontières au Mexique. Donc, de plus, on sait que le gouvernement aujourd'hui continue de séparer les familles. On l'avait vu en 2018, ça continue toujours. Donc, des milliers d'enfants qui ont été séparés de leur famille n'ont toujours pas pu être réunis avec celle-ci. Mmh. Et ensemble, nous souhaitons donc interpeller la secrétaire du département de la sécurité du territoire pour demander de cesser immédiatement de sanctionner les personnes qui cherchent la protection via cette pétition qui
vous trouverez en ligne, qui est valable jusqu'au 31 mars pour l'instant. Donc voilà. Continuez à signer, invitez à signer cette pétition. Vous avez vu qu'actuellement les Allemands sont tels qu'on s'intéresse au shutdown, qui a des conséquences d'ailleurs sur des espèces de tractations par rapport aux migrants aussi, tout est à vendre. Mmh. Voilà, donc la situation nous interpelle et nous aimerions bien que ceci débouche vraiment parce que cette situation est absolument insupportable. Chers auditeurs de Radio Albigès, cette émission se termine. Nous espérons qu'elle vous aura intéressé. Nous souhaitons que les droits humains progressent. Il faut continuer à agir avec Amnesty International et d'autres aussi, bien sûr, pour faire pression partout dans le monde sur les autorités pour que cessent les atteintes aux droits et libertés. Alors, vous pouvez aussi intervenir sur toutes les situations que nous venons de décrire et bien d'autres en allant sur le site amnesty.fr et en signant nos pétitions en ligne, entre autres, et en consultant nos rapports. Si vous souhaitez agir avec le groupe Amnesty International d'Albi, envoyez-nous un courriel sur notre messagerie amnesty.albi@laposte.net. Nous prendrons alors contact avec vous. Vous pouvez suivre nos actions et activités locales sur notre blog, pas de problème. Tapez Amnesty International d'Albi sur n'importe quel moteur de recherche, c'est ce qui arrive en tête. Merci de nous avoir écoutés et de nous faire part de vos commentaires et suggestions à ces mêmes adresses. Et n'oubliez pas, vos signatures ont du pouvoir.